Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Amandine Bégaud. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver. Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15. À la une ce soir, le chaos en Afghanistan et deux prises de parole ce soir. Emmanuel Macron à 20h. Joe Biden, lui, s'adressera aux Américains à 21h45. Le président des États-Unis, très attendu après le fiasco de ces derniers jours. Dans ce journal, également coup de projecteur sur cette génération d'ados qui se pressent pour se faire vacciner. Dans bien des cas, les parents n'étaient pas vraiment pour, en tout cas au départ. On ira aussi à Stains, en Seine-Saint-Denis, où deux policiers sont en garde à vue après des tirs lors d'un contrôle d'identité. Et puis, à quelques semaines de la rentrée universitaire, la FAGE, principale organisation étudiante, réclamait la création d'une allocation pour les étudiants. À 18h24, votre programme télé, comme chaque soir, ce sera avec Laurent Marsic. À 18h30, votre chronique. Et demain, rencontre ce soir avec Renaud Capuçon. La météo, c'est avec vous, Claire Delhomme. Bonsoir Claire.
Pardon. Bonsoir Amandine. Bonsoir.
Ça reste
à tous.
Gris et frais pour demain.
Exactement. En fait, on a pas mal de nuages qui vont concerner les régions du nord de la Seine en matinée, ainsi que le quart sud-ouest. Dans l'après-midi, la moitié nord va rester très ennuagée. Partout ailleurs, de belles éclaircies vont quand même pouvoir se développer. La Méditerranée, quant à elle, reste sous un très beau soleil, mais au prix du vent qui va souffler de manière sensible à 70 km/h. Pour les minimales, elles vont s'échelonner en matinée entre 11 et 16 degrés et les maximales entre 21 et 25 degrés, avec quelques degrés de plus encore de la Méditerranée. Bonne nouvelle, plus que deux départements sont en alerte canicule. Il ne s'agit plus que du Var et des Alpes-Maritimes.
Merci beaucoup Claire, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Et pour commencer, direction donc l'Afghanistan, avec ces images qui font froid dans le dos, le chaos à l'aéroport de Kaboul. Moins de 24 heures après le retour au pouvoir des talibans, on a assisté, Brice Dugénie, à des scènes à peine croyables.
Absolument. Sur certaines vidéos faites avec des téléphones portables depuis le tarmac de l'aéroport de Kaboul, on voit s'élever dans le ciel la silhouette grise d'un énorme avion de transport de l'US Air Force. Cet avion évacue des citoyens américains. Alors qu'il se trouve à plusieurs centaines de mètres dans les airs, on voit alors tomber deux petits points noirs dans le ciel. Ce sont des Afghans désespérés, paniqués par le retour des talibans, qui se sont accrochés au train d'atterrissage, aux roues de l'avion alors qu'il se trouvait encore au sol. Mais une fois en l'air, ils finissent par lâcher prise et viennent s'écraser et trouver la mort dans les cris d'effroi de ceux qui marchent encore sur la piste de décollage. Cette scène, elle s'ajoute au mouvement de foule, aux tirs d'armes des militaires américains qui tentent de reprendre le contrôle d'un aéroport où la peur, la panique, la nécessité de fuir provoquent d'incontrôlables mouvements de foule et des comportements désespérés. Les États-Unis viennent d'annoncer la suspension de tous les vols en attendant l'évacuation et la sécurisation des pistes de décollage.
Merci beaucoup Brice. Brice Dugénie du service étranger de RTL. Et ceux qui ne vont pas à l'aéroport restent ce soir cloîtrés chez eux, souvent par peur des représailles. C'est le cas de Fatima que Martin Zuber a pu contacter tout à l'heure pour RTL.
All people going to airport of Kaboul for run.
Tout le monde part en direction de l'aéroport pour s'enfuir de Kaboul, mais ils sont coincés entre les talibans qui les attaquent et les Américains qui les repoussent. Il y a des blessés et des morts. Moi, je ne peux pas sortir dans la rue, c'est trop dangereux. J'entends le bruit des tirs, donc je reste chez moi avec ma famille. Si les talibans me reconnaissent, ils vont me tuer parce que je suis une femme et que j'ai travaillé pour l'armée française. Les talibans ont commencé à faire du porte-à-porte pour retrouver les gens qui ont travaillé sous l'ancien gouvernement, avec les ambassades étrangères et les ONG. J'ai vraiment besoin d'un visa d'urgence.
Les talibans vont me tuer parce que j'ai travaillé avec la France. Témoignage de cette femme qui vit à Kaboul et recueillie pour RTL par Martin Zuber. Le sort justement de ces Afghans qui ont aidé la France, il en sera sans doute question tout à l'heure lors de l'allocution d'Emmanuel Macron. Le président français, je vous le disais, doit prendre la parole à 20h. Joe Biden, lui, s'adressera aux Américains. Ce sera à 21h45, heure de Paris. Bonsoir Lionel Gendron.
Bonsoir,
vous êtes le correspondant d'RTL aux États-Unis. Cette intervention de Joe Biden, bien sûr, elle est très attendue, alors que les États-Unis sont ce soir accusés d'avoir échoué. Ils pourraient avoir été dupés, trompés par l'armée afghane.
Oui, surtout par des responsables militaires corrompus. Prenez les effectifs annoncés, 300 000. C'est au moins trois fois plus que les talibans. Mais c'est un nombre surestimé. Pourquoi ? Eh bien, pour bénéficier des financements américains. Les États-Unis ont dépensé plus de 80 milliards de dollars rien que pour équiper et former les militaires. Alors cet argent, beaucoup de soldats de base n'en ont pas vu la couleur. Ils n'étaient pas payés, parfois n'avaient pas d'armes. Et quand ils se sont retrouvés face aux talibans, eh bien, ils n'avaient pas envie de mourir pour un régime qui les traitait ainsi. Dans certaines provinces, des militaires aurait même reçu de l'argent des talibans pour baisser les armes, des armes qu'au passage l'ennemi a récupérées. Résultat, ce sont surtout les forces spéciales qui ont mené le combat, environ 40 000, mais elles ont été dépassées par la combativité des talibans. Voilà comment Kaboul est tombé en quelques jours, alors que la Maison Blanche résonnait plutôt en moi.
Lionel Gendron, en direct de New York pour RTL. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette situation en Afghanistan. On y reviendra dans 10 minutes à 18h15 avec Antoine Horry, l'un des avocats de l'Association des interprètes et auxiliaires afghans de l'armée française. En Haïti, le bilan continue de s'alourdir après le séisme de ce week-end. On compte désormais près de 1300 morts et plus de 5700 blessés, sans compter les milliers de sans-abri. La tempête Grace, qui devait toucher le pays cette nuit, risque encore d'aggraver les choses. Sébastien Rouxel, vous vous êtes rendu à Épinay-sur-Seine, dans les locaux d'une web radio haïtienne très très écoutée par la communauté présente ici en France.
Et c'est à l'étage d'une petite maison que se trouve ce studio artisanal, quatre micros posés sur une table rouge. Franz, en costume cravate, s'y installe tous les soirs.
Il y a quelques instants de flash info pour vous donner maximum d'infos concernant le séisme qui a encore une fois frappé Haïti.
Je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'appels.
Des messages inquiets d'Haïtiens restés en France qui restent sans nouvelles de leur famille sur place.
Du coup, là, on a un correspondant sur place. Dès que vous me donnez votre quartier, bien, j'envoie. Et puis, il m'envoie des photos, comme ça, ça rassure les gens.
Au rez-de-chaussée, devant une rangée d'ordinateurs, Stéphanie, elle, informe les internautes via la page Facebook. Elle diffuse des vidéos tournées dans les villes les plus touchées.
Et on montre aux gens vraiment les dégâts. Ça, c'est la ville d'Ekaï.
Une mission qui lui tient à cœur puisqu'elle même a de la famille sur place.
Je suis touchée des deux côtés parce que ma mère, elle vient d'Ekaï et mon papa, il vient de Jérémy. Toute ma famille dort dehors, sous les arbres. Ils n'ont même pas de draps. Rien du tout.
Leur maison a été détruite.
Détruite complètement.
Et ce soir encore, malgré l'émotion, Stéphanie et Franz resteront en poste une partie de la nuit pour informer et accompagner la communauté haïtienne d'Île-de-France.
40 000 personnes originaires d'Haïti qui vivent ici en Île-de-France, 100 000 au total en France. Reportage signé Sébastien Rouxel. Sur le front du Covid, la situation reste ce soir critique aux Antilles et notamment en Guadeloupe. Le taux d'incidence y dépasse désormais les 4 000 pour 100 000 habitants chez les 20-29 ans. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
C'est tout simplement du jamais vu en France.
Non, sur cette tranche d'âge, la moyenne nationale est en ce moment de 500. Elle n'a jamais été plus élevée depuis le début du Covid. Alors il y a eu un record dans un département, Haute-Savoie, l'automne dernier. Le taux était monté à 1700. Mais hier, en Guadeloupe, on était chez les 20-29 ans à 4 000 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants. Bon, il y a quand même aux Antilles un léger espoir, un léger ralentissement de l'épidémie. La hausse est un tout petit peu moins forte depuis quelques jours, ce qui pour l'instant ne se traduit pas dans les hôpitaux, toujours débordés avec des médecins encore obligés de trier les malades qui entrent en réanimation. Et cette situation critique risque de durer encore au moins deux semaines en Guadeloupe et en Martinique, alors qu'au contraire, elle semble contenue en France hexagonale. Là, la hausse a fortement ralenti. Il y a même eu une baisse du nombre de nouveaux cas en Occitanie, en Aquitaine et à Paris. Le taux de positivité baisse en métropole et les entrées à l'hôpital se stabilisent.
Virginie Garin, et j'ajoute que ce sont plus de 100 tonnes d'oxygène médical qui sont en route pour la Martinique, acheminées par bateau, par l'armée. Ils devraient arriver sur place à Fort-de-France d'ici jeudi. Ici, en métropole, la campagne de vaccination se poursuit à un rythme soutenu même chez les plus jeunes. Un adolescent sur deux a déjà reçu sa première dose. Et dans bien des cas, ce sont les jeunes, les 12-17 ans, qui ont convaincu leurs parents de les laisser se faire vacciner. Antoine Decarne, vous avez vérifié ça dans un centre de vaccination, le centre de vaccination du Zénith de Lille.
Devant l'immense entrée du vaccinodrome, Anatole, 13 ans, devance Virginie, sa maman.
Il a souhaité se faire vacciner. Du coup, on a pris un rendez-vous et on est venu. On n'était pas forcément pro-vaccin, mais voilà.
Car oui, c'est bien Anatole qui a poussé ses parents.
Je lui ai juste dit que je voulais me faire vacciner pour pouvoir quand même aller au cinéma, aller dans les centres commerciaux, etc. Et pas pouvoir rien faire.
Il a donc fallu convaincre, comme ce fut le cas également pour Zélie, 16 ans. Elle a livré ses arguments à ses parents et notamment sa maman, Elodie. pour qu'ils acceptent qu'elles se vaccinent.
Je me suis dit que c'était quand même mieux de le faire pour se protéger, pour protéger les autres. C'est juste un vaccin, donc je préférais le faire, comme ça j'étais tranquille. Et...
C'était pas trop son avis à la base?
Bah, au début, pas trop, mais bon, après, elle a changé d'avis quand même.
C'est vrai que j'étais réticente. On n'a pas beaucoup de recul finalement par rapport à ce vaccin, surtout pour les ados. Et bon, voilà, elle avait pris sa décision, c'était à moi de la respecter.
Mais d'autres n'ont pas cette chance. QR code en main, Ryan est seul, sa maman n'a pas souhaité l'accompagner.
Elle est contre le vaccin, qu'elle le fait pas.
Tu leur diras de le faire ou pas?
Si ça les bloque, ouais. Je lui ai déjà dit, même si t'es pas d'accord avec ça, c'est soit tu le fais, soit tu vas perdre ton travail, quoi.
Et l'objectif des prochains jours pour cet adolescent sera bien de convaincre ses parents.
Le reportage à Lille d'Antoine Decarne pour RTL. On marque une toute petite pause, on se retrouve dans un instant et on ira à Saint en Seine-Saint-Denis où deux personnes ont été grièvement blessées après des tirs policiers. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir. RTL Soir, Amandine Bégaud.
Et à 18h11 sur RTL, la suite du journal, deux policiers de la BAC sont donc ce soir en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux les montre en train de tirer sur le conducteur et la passagère d'un véhicule. C'était la nuit dernière à Stain, en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
Tout est parti d'un simple contrôle.
Oui, alors sur la séquence, on aperçoit d'abord un policier en civil accroché à la portière du véhicule contrôlé. Il semble vouloir s'introduire dans l'habitacle par la fenêtre. La voiture fait marche arrière, le policier y reste accroché, mais un autre fonctionnaire de la BAC situé à proximité est percuté. C'est en tout cas ce qu'affirme la préfecture de police de Paris, même si cette scène en particulier n'est pas visible sur les images. Le véhicule repart en marche avant, un des deux fonctionnaires est toujours agrippé à la carrosserie. L'autre agent, resté à proximité, sort son arme de service, tire à plusieurs reprises sur le véhicule. Une vitre explose, la voiture s'immobilise, mais les deux policiers tirent à nouveau dans l'habitacle. Au total, on entend au moins 6 détonations à l'intérieur. Le conducteur et sa passagère sont gravement blessés. Tous deux ont leur pronostic vital engagé. Ils sont transportés à l'hôpital pour subir d'importantes opérations. Les deux agents de police légèrement blessés sont quant à eux entendus depuis ce matin par la police judiciaire de Seine-Saint-Denis et l'inspection générale de la police nationale.
Alice Moreno du service police-justice d'RTL. C'est demain que sera versée l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire, un coup de pouce qui est très attendu par les familles les plus modestes. 3 millions devraient pouvoir en bénéficier cette année. 5 millions d'enfants, entre 370 et 404 euros selon l'âge des élèves de 6 à 18 ans. Et c'est dans ce contexte que la FAGE, la première organisation étudiante de France, publie ce soir les résultats de son enquête sur le coût de la rentrée étudiante. Une rentrée étudiante en hausse, un coût de la rentrée étudiante en hausse, selon cette organisation, plus 1,32% cette année. La FAGE, Marie Guerrier, qui demande donc pour faire face la création d'une allocation un peu sur le modèle de l'ARS.
Oui, ça part d'un constat. Les étudiants qui n'ont pas droit aux bourses mais qui sont dans le besoin sont de plus en plus nombreux. Paul Maillot, le président de la FAGE.
On a eu plus de bénéficiaires dans nos épiceries sociales et solidaires en 3 mois que depuis leur création en 2011. Donc ce qui est un constat qui est alarmant. On a eu un ensemble de dispositifs mis en place par le gouvernement pendant la crise sanitaire, mais souvent ces mesures étaient ponctuelles. Ce qu'on demande, c'est une réforme plus structurelle.
Avec donc la création d'une allocation de rentrée étudiante dont la FAGE a calculé un montant possible, 275 euros, pour couvrir une partie des dépenses de septembre, notamment l'achat de matériel.
Elle serait versée du coup à la rentrée universitaire, sans condition de ressources, puisque malheureusement le système aujourd'hui de bourse ne permet pas de prendre en compte toutes les personnes qui sont en difficulté. Donc il faut bien qu'on puisse avoir un dispositif qui concerne tous les étudiants et toutes les étudiantes.
La FAGE réitère également sa demande de réforme des critères d'attribution des bourses pour en faire bénéficier 300 000 étudiants de plus.
Si demain on n'a pas l'annonce d'une allocation de rentrée étudiante ou d'une extension des bourses sur critères sociaux, et bien effectivement on peut s'attendre à ce qu'on connaisse ce qu'on a pu voir et qui a été énormément médiatisé pendant la crise sanitaire, des jeunes qui se retrouvent dans des files de distribution pour pouvoir subvenir à leurs besoins.
L'organisation étudiante attend un geste fort du président Macron alors que ses deux prédécesseurs avaient, eux, instauré un 10e mois de bourse et élargi le nombre de boursiers.
Merci beaucoup Marie. Marie Guerrier, spécialiste éducation ici à RTL. Et la rentrée scolaire pour les plus jeunes,
c'est
la maternelle
deux semaines
au lycée. Dans 2 semaines, on le rappelle, ce sera le jeudi 2 septembre. On aura l'occasion d'en reparler. Dans un tout petit instant, l'invité d'RTL Soir et à moins de 2 heures de l'intervention d'Emmanuel Macron sur l'Afghanistan, on évoque la situation justement de ces Afghans qui ont aidé à la France. Ils sont ce soir bloqués sur place et redoutent des représailles. L'un de leurs avocats, Maître Antoine Horry, est avec nous. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir, Amandine Bégaud.
Et l'invité d'RTL Soir ce soir, c'est Maître Antoine Horry. Bonsoir, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes avocat, membre du collectif d'avocats de l'Association des interprètes et auxiliaires afghans de l'armée française. Vous défendez notamment cette jeune femme, Fatima, qu'on a entendue tout à l'heure dans le journal de 18h. Elle a longtemps travaillé avec l'armée française et aujourd'hui, elle est cloîtrée chez elle à Kaboul par crainte des représailles. On l'écoute et on en parle juste après.
Moi, je ne peux pas sortir dans la rue, c'est trop dangereux. J'entends le bruit des tirs, donc je reste chez moi, avec ma famille. Si les talibans me reconnaissent, ils vont me tuer parce que je suis une femme et que j'ai travaillé pour l'armée française.
Maître Antoine Horry, on entend l'angoisse, la peur immense de cette femme. Elle est en danger ce soir parce qu'elle a travaillé avec l'armée française ?
Oui, absolument. Elle va constituer pour les talibans qui viennent d'arriver au pouvoir une cible évidemment de choix pour asseoir leur nouvelle autorité. Et de même que beaucoup d'autres personnes dans cette situation, elle est en très grand danger. Les talibans vont la retrouver et les retrouver, elle, ainsi que l'ensemble des autres personnes qui ont travaillé pour la France. Et ils feront évidemment des exemples et des cibles toutes désignées pour eux.
Combien sont-ils comme elle, comme Fatima, dans cette situation ?
Alors la France en a employé 800, 300 à peu près ont réussi à rentrer par la voie diplomatique ou juridique, et on estime à peu près à une centaine, approximativement, parce qu'il est difficile d'avoir le lien avec tout le monde, le nombre de personnes encore à Kaboul.
Vous en avez eu d'autres au téléphone ces dernières heures ?
Bien sûr, oui, je suis en contact quotidien et permanent avec eux. Alors, moi, j'avais des contacts assez sporadiques jusqu'à l'arrivée des talibans. Mais là, depuis quelques semaines, on sent une très grosse pression et leurs contacts se font beaucoup plus pressants et beaucoup plus intenses parce qu'ils ont extrêmement peur et ils craignent vraiment pour leur vie. Là, ils ne sortent absolument plus de chez eux. Les routes sont bloquées pour l'aéroport. Ils n'osent plus sortir.
Alors on le disait, Emmanuel Macron doit prendre la parole dans moins de 2 heures maintenant, ce sera à 20h. Qu'attendez-vous, vous l'avocat, de cette allocution ?
Ce que j'attends de la France et d'Emmanuel Macron, c'est qu'il tende la main à ces personnes qui ont aidé notre pays quand notre pays en avait besoin. Certains d'entre eux ont été employés alors même qu'ils étaient très jeunes, parfois au lycée. Et la France n'a pas hésité à se servir d'eux. Et donc effectivement, moi ce que j'attends, c'est que ces personnes soient protégées parce que les laisser en Afghanistan, c'est les vouer à une mort absolument certaine.
Ce matin, Florence Parly, la ministre des Armées, a indiqué que la France serait aux côtés de tous ceux qui avaient travaillé avec elle, qui l'avaient aidée. Ça ne suffit pas ça comme engagement ?
Alors, du côté de l'association pour laquelle je travaille avec le collectif d'avocats, on n'a pas eu de son de cloche officiel et on n'a pas eu ce son de cloche pour l'instant. Il me semble que les mots exacts de Florence Parly étaient que les personnes qui ont rendu des services à la France seraient protégées. Alors ça peut être lu de deux façons. Ça peut être soit une sélection au cas par cas, au compte-gouttes, en fonction de critères qui appartiendraient au ministère des Armées. Ça a déjà été le cas. Ou bien soit partir du principe que tous ceux qui ont travaillé pour la France seront rapatriés et protégés.
On a et ça, c'est ce que vous demandez, cette deuxième option, que ce soit pour tout le monde.
C'est cette deuxième option qu'on demande, puisque le rapatriement au cas par cas et au compte-gouttes a déjà été fait très partiellement. On a eu 3 processus diplomatiques de relocalisation en 2012, 2015 et 2018. Et le premier d'entre eux a été mené par plusieurs ministères, mais les 2 suivants ont été faits sous pression de l'association et de l'opinion publique. Donc déjà, les quelques rapatriements qui ont eu lieu en 7 ans, on est à peine un quart. Et ça a été très poussif.
Toute la difficulté, pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est que jusqu'à présent, ces Afghans, qui ont certes aidé la France, doivent prouver qu'ils sont en danger là où ils sont. C'est bien ça ?
Absolument. Alors en fait, moi en tant qu'avocat, je travaillais effectivement sur le plan juridique et on faisait des demandes de visa très simplement auprès du ministère des Armées, enfin des demandes de protection qui prenaient la forme d'une demande de visa. Et le ministère des Armées, donc généralement, ne répond pas. Donc on attaquait ce refus implicite devant les tribunaux administratifs. Et les tribunaux administratifs, presque systématiquement, rejetaient nos demandes d'annulation de la décision du ministère en nous expliquant qu'il fallait que les preuves de menace soient personnelles, actuelles et réelles et directement liées à l'action et leur collaboration avec la France. Donc autrement dit, il faut qu'un taliban vous agresse, vous menace, vous tire dessus, tout en précisant et en explicitant sa démarche, et bien sûr en précisant le fait que c'est lié à vos fonctions pour la France.
On imagine que dans le contexte actuel, ce genre de démarche est impossible.
Évidemment, c'est complètement impossible. C'est complètement impossible et c'est un niveau de preuve qui est complètement inaccessible. Mais malgré tout, le ministère des Armées s'est constamment réfugié derrière ça. Et si vous voulez, on avait parfois des dossiers où les personnes s'étaient effectivement fait agresser, mais le ministère des Armées continuait à dire, finalement, il n'y a aucun lien avec l'armée, avec le travail pour l'armée. Et donc, on ne sait pas vraiment si ces personnes-là sont menacées. Et donc, voilà, moi, je souhaiterais que ce dossier soit rejeté. Et c'est ce qu'ont fait les tribunaux administratifs pendant très longtemps. Et donc, c'est pourquoi, là, l'issue politique est finalement le seul espoir pour ces personnes.
Juste un geste, une décision d'Emmanuel Macron. C'est très politique, on l'a bien compris. Est-ce que vous comprenez ceux qui, ici en France, s'inquiètent pour la sécurité de notre territoire en cas d'arrivée massive? Et surtout, que leur répondez-vous ce soir?
Alors effectivement, ça c'est un argument qui est audible et qui d'ailleurs a été mobilisé, jamais officiellement mais un peu officieusement, par le ministère des Armées. Je tiens à dire que ces personnes se sont engagées à nos côtés contre les talibans qui sont des fanatiques islamistes. Donc déjà, cette inquiétude vis-à-vis des convictions religieuses qui pourraient être les leurs, elle n'a pas lieu d'être. Par ailleurs, ce sont des personnes qui ont été employées par l'État, qui étaient notées, qui étaient constamment évaluées par l'armée française et dont on a les noms, les cartes d'identité, les contrats de travail, et donc c'est des profils qui étaient tout à fait évalués, qui sont listés et qui étaient suivis par le ministère des Armées. Donc ce sont des personnes, si vous voulez, qui à mon sens ne représentent pas de danger pour ces raisons-là. Et je crois qu'encore une fois, prendre des risques aux côtés des soldats français témoigne déjà à minima d'un certain amour pour notre pays. Je précise que beaucoup d'entre eux parlent évidemment très bien français, ont un immense respect pour notre pays, et que ces craintes ne sont pas fondées les concernant.
Merci beaucoup, Maître Antoine Horry, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur RTL, membre, je le rappelle, du collectif d'avocats de l'Association des interprètes et auxiliaires afghans de l'armée française. On a bien compris cet appel donc que vous lancez ce soir à Emmanuel Macron. Vous restez avec nous sur RTL dans un tout petit instant. Tout autre chose, la télé, votre programme télé. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir, Amandine Bégaud.
Et à la télé ce soir, on jette donc un coup d'œil sur vos programmes de cette soirée. Bonsoir Laurent Marsic.
Bonsoir Amandine.
Avec une diffusion d'abord qui fait polémique ce soir à la télé, elle est sur C8, qui propose Unplanned, un film américain ouvertement anti-avortement.
Oui, l'histoire est celle d'Abby Johnson, l'une des plus jeunes directrices de clinique du planning familial américain où on pratique des avortements. Mais un événement va faire basculer, et la faire basculer dans l'autre camp, celui des anti-IVG. Elle assiste un jour à l'avortement d'une jeune femme, alors enceinte de 13 semaines. L'histoire est inspirée de faits réels.
Je l'ai vu. C'était comme s'il se tordait et se battait pour survivre. J'ai été la complice de plus de 22 000 avortements.
À sa sortie en salle aux États-Unis, plusieurs médecins sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'on voit dans ce film. Contre-vérité scientifique, mensonge. Le tout a été produit par un homme adepte des théories du complot et fervent soutien de Donald Trump. Chez nous, la décision de C8 de diffuser ce film a provoqué la colère d'associations comme le Planning Familial, pour qui ce film est une pure propagande anti-IVG. Sarah Durocher est la coprésidente nationale du Planning Familial.
Ce qui nous choque, c'est qu'il y a des associations, il y a des professionnels de santé, des parlementaires qui se mobilisent sur l'accès à l'avortement, qui dénoncent les difficultés en France de l'accès à l'avortement. En ce moment, il y a une proposition de loi pour aussi améliorer son accès. Et donc, on est dans un contexte où les associations dénoncent, font un triste constat sur l'avortement. Et il y a la programmation de ce film qui est de la désinformation très importante et très culpabilisante pour les femmes. C'est un choix politique de programmer ce film. C'est très catastrophique. C'est un assemblage de manipulation qui est assez fort dans ce film.
Alors, la direction de C8 n'était pas joignable pour réagir, mais m'a fait savoir tout à l'heure que le film sera diffusé avec des panneaux d'avertissement rappelant, un, la loi française en matière d'IVG. Elle précise que plusieurs scènes du film ont été coupées sans qu'on sache lesquelles, et une interdiction moins de 10 ans sera appliquée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lui, a tenu à faire savoir en début de mois que chaque chaîne était libre de sa programmation. Il ne peut intervenir de toute manière qu'après diffusion. Alors, l'heure où on se parle, une pétition contre la diffusion de cette fiction a déjà réuni plus de 19 000 signatures.
Autre programme et autre ambiance, Laurent, ouais. M6 qui lance ce soir Arnaque, présenté par notre camarade Julien Courbet.
Ouais, florilège d'arnaque en tout genre, le grand classique, le serrurier qui prend 150 euros pour ouvrir une porte en 3 heures. Voilà, alors qu'en réalité, il faut 7 secondes et un bout de papier à quelques euros. Des arnaques contre le vol d'identité. Si les exemples choisis sont connus, l'intérêt de l'émission réside surtout dans les conseils d'experts. Comme avec cet exemple, cette dame qui a été ruinée après un vol d'identité, alors qu'elle n'a jamais ni perdu, ni ne s'est fait voler ses papiers. L'expert que sollicite Julien Courbet a une réponse, parmi d'autres, à ce type de vol, nos poubelles. Oh.
Moi, je suis venu avec ma poubelle et vraiment, j'ai pas cherché à en rajouter. J'ai fait comme si j'étais dans la vraie vie. Je vous ai emmené ce que j'avais. Alors, il y a tout. Hein.
Ce qu'on va faire, c'est vider un sac poubelle.
Ma facture de portable.
Ah, facture de portable très intéressante. On a maintenant votre nom et votre adresse. Et c'est un justificatif de domicile. Et donc, c'est une preuve. Aujourd'hui, avec juste la copie de votre carte d'identité, un justificatif de domicile, vous pouvez prendre des crédits au nom d'une autre personne.
Des fois, je fais ça. Voilà. Je fais ça et je me dis, hop.
Le spécialiste n'est pas impressionné.
Ça suffit, ça se reconstitue aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'ils en font de mes trucs avec le scotch ?
Ensuite, c'est scanné, récupéré, une vraie fausse facture, un vrai faux justificatif. Il est préférable de le déchirer, mais de le mettre dans deux poubelles différentes à une semaine d'intervalle.
Deux poubelles différentes à une semaine d'intervalle, faut quand même, c'est pas idiot. Oui. Sinon, la machine qui mange tout, là. Mmh. Ils sont ainsi 250 000 à 350 000 Français à se faire voler leur identité chaque année, nous expliquons. Et vous verrez, l'équipe d'arnaque est remontée jusqu'à la source des vols en Afrique et la revente des données sur le dark web, c'est terrifiant. En cadeau bonus, vous aurez droit aussi à l'arnaque des pompes à chaleur. M6 21h05. Et puis juste parce qu'après tout ça, c'est bien aussi quand ce sont les gentils qui gagnent. Pour les enfants, double ration d'Astérix sur W9, la version animée, ou au choix...
Tarzan.
D'ailleurs, connu Tarzan sur TMC, le film de David Yates en 2016.
Merci beaucoup Laurent et à tout à l'heure pour un nouvel épisode des 100 ans de la radio. On vous retrouvera juste avant 19h avec un chanteur animateur. Indice.
Et moi.
Eh ben allons-y. Avec ma voiture et mon chien.
C'est Johnny qu'on entend, Johnny Hallyday.
Et pour la première fois, les bandes originales de ces émissions.
Johnny, animateur, ici à RTL, le temps d'un été. Laurent, vous nous raconterez tout ça. Ce sera tout à l'heure à 18h50. Pour l'heure, 18h29 sur RTL, l'essentiel de l'actualité avec à la une ce soir ce chaos en Afghanistan. Un peu plus de 24 heures après le retour au pouvoir des talibans, plusieurs milliers de personnes tentent par tous les moyens de fuir le pays. Sur RTL, Maître Antoine Horry demande ce soir à Emmanuel Macron de faire un geste pour ces centaines d'Afghans qui ont aidé ou travaillé avec la France et qui risquent aujourd'hui des représailles. Le président français qui doit prendre la parole tout à l'heure à 20h. Autre intervention très attendue, c'est celle de Joe Biden, le président américain. C'est lui qui a décidé du retrait des troupes américaines. Discours prévu à 21h45. Dans l'actualité également, ce bilan qui s'alourdit en Haïti après le séisme de samedi. Plus de 1300 morts et 5700 blessés. D'autres ont tout perdu et redoutent désormais le passage d'une dépression tropicale. Et puis en Seine-Saint-Denis, deux personnes ont été grièvement blessées la nuit dernière, blessées par des tirs policiers lors d'un contrôle d'identité. Deux policiers de la BAC sont ce soir en garde à vue. La météo, c'est avec vous Claire Delorme, et le retour des nuages, hélas j'ai envie de dire, se confirme.
Exactement, la grisaille va dominer une bonne partie de la journée, particulièrement en matinée pour toutes les régions au nord de la Seine ainsi que sur un quart sud-ouest. Partout ailleurs quand même, ça restera plus variable même si quelques éclaircies vont pouvoir se développer. Elles vont se développer davantage, rassurez-vous, dans l'après-midi à l'exception du Piémont pyrénéen et sur le littoral aquitain. Et puis là encore pour une bonne moitié nord avec en prime quelques averses très locales qui ne seront pas exclure vers les frontières belges. Sinon, le beau temps se maintient en Méditerranée et dans l'après-midi s'étend vers la basse vallée du Rhône, mais au prix du vent qui va souffler modérément. Des pointes sensibles à plus de 70 km/h, y compris entre Corse et continent. Et pour les températures, enfin, ça se rafraîchit. On est même en dessous des normales de saison. Demain matin, les minimales seront comprises en général entre 11 et 16 degrés. L'après-midi, ça ne décollera pas au-dessus de 21 et 25 degrés. Forcément, du côté de la Méditerranée, on prend quelques degrés de plus avec encore la barre des 30 degrés qui sera avoisinée. Et même deux départements sont encore maintenant placés en alerte canicule. Il s'agit des Alpes-Maritimes et du Var.
Et ça va durer comme ça toute la semaine ou...
J'ai envie de dire oui, on prend exactement les mêmes couleurs. C'est tout en nuances de gris cette semaine.
Oui, c'est pas terrible quand on se trouve dans le gris-gris.
Pas terrible, mais à l'exception quand même de la Méditerranée qu'elle conservera un grand bleu, mais encore avec le vent qui va souffler fort. Donc attention, des conditions propices au départ d'incendie si vous êtes en vacances, surtout pas d'incendie. On garde ces mégots de cigarettes, on ne les jette surtout pas par terre. Une petite étincelle peut déclencher un feu de forêt.
Prudence, et tout à l'heure, Hugo Hamelin, notre correspondant à Marseille, nous signalait justement un incendie dans le sud de Marseille. Incendie en passe d'être maîtrisé, mais 5 canadaires et 2 hélicoptères bombardiers d'eau ont tout de même dû être envoyés sur place. Prudence donc, merci beaucoup
merci
Claire.
Beaucoup.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant sur RTL, c'est votre chronique. Et demain, rencontre ce soir avec un violoniste que vous connaissez bien sur RTL, Renaud Capuçon.
RTL Soir.
Amandine Bégaud. Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain.
Et demain.
Après un an et demi de crise sanitaire, RTL, vous le savez, vous propose cet été un regard vers l'avenir. Chaque jour, un entretien avec une personnalité. Comment le Covid a bouleversé nos vies? Comment préparer la suite, l'après? Aujourd'hui, Guillemette Franquet rencontre avec un violoniste, le violoniste Renaud Capuçon.
Bonjour Renaud Capuçon.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais bien, il est tôt le matin et je vais très bien.
Vous, si vous deviez choisir un mot pour qualifier le Covid, vous pensez à quoi, là, tout de suite?
Frustration. Et puis peine, bien sûr, pour tous ceux qui ont perdu la vie, mais en un mot, empêchement. Parce que, alors, bien sûr, je vais parler de ce qui fait ma vie. Ce qui est ma vie, c'est je suis un artiste. Donc, ma vie, c'est de monter sur scène. Ma vie, c'est d'apporter à un public du bonheur, de l'évasion, de la joie, de l'émotion. Et ben, quand vous pouvez pas monter sur scène, vous êtes empêché et on nous avait coupé les ailes.
Qu'est-ce que vous retiendrez de votre confinement ?
Plein de sentiments mêlés, mais vécus très très vite. Tout d'abord, à la première annonce, la peur du vide. Et puis ensuite, je me suis accroché, vraiment, comme on s'accroche, comme quelqu'un qui tombe d'un bateau et qui s'accroche au bastingage. Je me suis accroché à ces minutes que j'ai fait tous les matins, ces 3 minutes que j'ai enregistrées pendant 56 jours, de petites pièces que j'ai jouées chaque matin et enregistrées chaque matin à 9h du matin et que je mettais sur les réseaux sociaux vers 11h. Bien sûr que ça a été pour partager avec le public, mais très égoïstement, au début, ça a été un réflexe de survie. J'ai fait ça pour ne pas tomber en dépression. Voilà, je le dis, c'est la première fois que je le dis, mais c'était vraiment le cas, parce que j'ai senti qu'il y avait un gouffre qui s'ouvrait, que je passais de 150 concerts par an à rien. J'ai senti que je glissais, et j'ai réagi immédiatement. Clairement, cette première période a été pour moi une période de combat. Mais on en sort tous plus forts, je pense.
Qu'est-ce qu'il y aura dans le monde de demain qu'il n'y avait pas dans le monde d'hier ?
Je pense que le monde de demain va être aussi certainement différent sur une prise de conscience écologique, d'être pragmatique et de se dire oui, on a été trop loin, profitons de cette crise et de cet arrêt total pour repenser comment faire mieux après. Alors là, je pense qu'il y a des choses à faire.
Et vous, dans votre monde à vous, qu'est-ce qu'il y aura de neuf demain?
Qu'est-ce qu'il y aura de neuf? Beaucoup de choses. Déjà cette prise de conscience, cette envie de plus de moments de parenthèse dans la campagne, plus de moments en silence, plus de moments en famille. Et j'ai surtout réalisé à quel point c'était positif pour la musique, pour la créativité.
Vous avez été longtemps privé de public pendant cette année difficile. Vous avez l'impression que dans votre jeu musical, dans votre manière d'aborder tout simplement le violon, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose aussi là qui a changé ou pas?
Il y a clairement une chose qui a changé, il y a une densité supplémentaire, une immédiateté, c'est-à-dire que chaque seconde est essentiel pour le coup, chaque seconde de concert. Chaque concert maintenant qui a lieu avec un vrai public, dans une vraie salle, avec des vrais applaudissements et une émotion musicale, on la savoure en se disant que sera demain, on ne le sait pas, apprécions chaque moment. Et je pense qu'il va y avoir, quand on analysera cette période dans 50 ans, certainement que l'après sera analysé comme, alors on parlait des années folles, des années 20 après la guerre. L'après, donc maintenant, je pense que les 5 prochaines années vont être d'une richesse culturelle incroyable.
Est-ce qu'il y a un son, une musique qui vous ont accompagné pendant cette période, qui ont été importants pour vous, qui vous ont peut-être apaisé?
Oui, clairement, j'ai passé toute cette période à écouter du Bach. En fait, la quasi seule musique que j'ai écoutée. N'importe quelle œuvre de Bach m'apaisait.
Merci beaucoup, Renaud Capuçon.
Merci à vous.
Renaud Capuçon avec Guillemette Franquet. Renaud Capuçon qui sera demain, 17 août, en concert dans la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour, au festival justement de Rocamadour.
Cette nuit s'est abattue sur le monde.
Ça sera vachement mieux.
Anaïs Bouisson sur RTL.
La révolution industrielle était en marche et notre standard de vie suivait la courbe ascendante du progrès mécanique.
Après la crise.
Autre rendez-vous de l'été sur RTL, votre chronique après la crise ou comment les crises ont par le passé engendré des évolutions, voire même des révolutions. Ce soir, avec Anaïs Bouisson, on va voir comment la terrible guerre froide entre les États-Unis et l'URSS a aussi été à l'origine d'une extraordinaire course, la course aux étoiles de l'humanité.
Après la Seconde Guerre mondiale, deux puissances se toisent. À l'ouest, le capitalisme des États-Unis. À l'est, le communisme de l'Union soviétique. Deux modèles de société, deux économies se font face et débute une course aux technologies militaires qui aboutira à la conquête de l'espace.
À l'heure actuelle, il n'y aurait pas de vols spatiaux si, au départ, on n'avait pas utilisé le matériel militaire.
Tout commence quand États-Unis et Union soviétique entendent parler d'un missile ultra performant, le V2, conçu dans l'Allemagne nazie.
Ce missile, c'est la première fois qu'on construit un objet qui n'est pas un avion et qui peut décoller comme une fusée en réalité et retomber à des milliers de kilomètres sur une cible avec une grande précision.
Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Très très rapidement, on s'aperçoit qu'à Peenemünde, dans le nord de l'Allemagne, il y a une base secrète où sont faits ces missiles et les troupes soviétiques d'un côté et les troupes américaines de l'autre se ruent vers cette base de Peenemünde pour essayer de récupérer avant les autres la technologie et les ingénieurs qui vont avec. On ne se doutait pas que ça allait entraîner le premier pas sur la Lune. En revanche, on se doutait que c'était une technologie clé. On va récupérer effectivement d'un côté et de l'autre en réalité. Et aussi bien en Union soviétique qu'aux États-Unis, on travaille donc à mettre en place ces fameux missiles balistiques à longue portée.
Suspicion, espionnage, course à l'armement sont les ingrédients du début des années 50 dans les deux camps.
Du côté américain, on est vraiment centré sur la capacité à espionner, alors que l'Union soviétique, elle, veut d'abord montrer au monde, en fait, qu'elle peut faire cette performance de pouvoir satelliser un objet.
Le 4 octobre 1957, l'Union soviétique remporte la première manche de la course à l'espace en envoyant un satellite autour de la Terre.
C'est vu comme une claque énorme pour les États-Unis.
Le président Eisenhower arrivait, les oreilles bourdonnantes, peut-être des signaux incompréhensibles du dernier né des Spoutniks russes, lancé depuis quelques heures et roulant sans faiblesse sur son orbite.
L'Union soviétique va ensuite enchaîner les premières, en fait. La chienne Laïka, le premier être vivant lancé en orbite. Puis surtout, on va avoir le 12 avril 61, Yuri Gagarin, le premier homme en orbite. Et là, on est stupéfait aux États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas rester dans cette situation d'infériorité stratégique, d'infériorité politique, etc., diplomatique. Et c'est l'annonce du 25 mai 61, décidé l'envoi d'un homme sur la Lune et son retour avant la fin de la décennie 60. Et donc, on va avoir les premiers essais Apollo, les premiers sélections d'astronautes. 400 000 personnes y travaillent. Et les États-Unis, finalement, quelque part, redressent la situation en juillet 69 en montrant non seulement qu'ils sont les premiers à fouler le sol lunaire, mais que les Soviétiques n'en sont pas capables puisque, en fait, leur effort est complètement interrompu pour mettre des hommes sur la Lune à cette époque.
Je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong.
Voici le premier pas.
La confrontation directe entre États-Unis et Union soviétique se termine avec la mission Apollo.
Il y aura un fameux programme Apollo-Soyouz. On aura d'ailleurs le symbole de la détente, ce qu'on appelle, avec un serrage de main au début des années 70 entre astronautes et cosmonautes.
Mais cette crise se termine définitivement sur Terre et dans les airs à la fin de l'année 1989.
La chute du mur de Berlin, donc c'est vraiment le symbole de la fin de la guerre froide en réalité. Et à partir de ce moment-là, le principal souci des États-Unis va être que cette Union soviétique, puis cette Russie qui est en déliquescence, ne donne pas lieu à l'essaimage d'un grand nombre de compétences, de technologies un peu partout dans le monde qui seraient déstabilisantes. Et on va commencer du côté américain à lancer un programme pour financer en Russie un certain nombre de labos qui permettent de payer les salaires, tout simplement, des ingénieurs. L'administration Clinton, par exemple, donc tout début des années 90, va essayer d'associer la Russie directement, de manière bilatérale, dans un premier projet station, donc pour vraiment délibérément occuper les scientifiques dans un programme qui était contrôlé par les États-Unis. C'est ce qui va directement expliquer pourquoi aujourd'hui la Russie se trouve associée au programme de Station Spatiale Internationale par le biais de modules qu'ils ont mis, par le biais d'astronautes qui s'y rendent régulièrement.
Anaïs Bouissou, avec la précieuse collaboration du service des archives de RTL. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. LVT de l'été, on vous emmène au cinéma dans les coulisses du prochain film de Jean-Jacques Haneau. Notre-Dame brûle, à tout de suite.
RTL Soir.
Amandine Bégaud.
C'est l'été.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Et au menu ce soir de ce nouveau numéro de Laissez-vous tenter de l'été du cinéma et un polar. Jérôme Florin, on vous retrouve en compagnie de Stéphane Boutsock et Bernard Lehu.
Avec Stéphane Boutsock et Bernard Lehu, on va parler évidemment cinéma et livres. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Stéphane, c'est un feuilleton qu'on suit depuis plus d'un an sur RTL. Notre-Dame brûle, le prochain film de Jean-Jacques Haneau consacré à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Alors après les repérages et la construction des décors, vous nous emmenez cette fois, Stéphane, sur le plateau du réalisateur, au pied de la cathédrale.
Oui, sur le parvis, en effet, à la limite de la zone plomb, où quasiment personne ne peut entrer. En avril dernier, Jean-Jacques Haneau tournait sur place et il a pu, en équipe très réduite, filmer quelques plans aux abords même de l'édifice. Puisque les deux tours majestueuses nous regardaient du haut de leurs 70 mètres, j'ai demandé au cinéaste de nous dire de quelle manière lui voyait son actrice principale 2 ans après le terrible incendie.
Mais je la regarde avec émotion parce que, vous savez, je m'identifie à mes personnages. Vous avez raison de dire que c'est ma vedette. C'est la star du film. C'est vraiment l'histoire d'une star qui est en train de mourir et les sauveteurs qui ont du mal à parvenir à arrêter l'hémorragie, disons. La bonne nouvelle, c'est que la cathédrale est toujours là. Le gros problème, c'est le problème du plomb. Lorsque nous tournerons les quelques images que je ne peux pas faire ailleurs, parce que c'est très spécifique à Notre-Dame, j'ai l'autorisation de pénétrer dans la zone plomb, à condition que toute mon équipe soit en tenue de plomb, c'est-à-dire que ce sont des vêtements qu'on va brûler après les avoir utilisés, après avoir pris des douches, en fait tout ça. Le protocole dure 3 heures. J'ai deux acteurs qui vont y pénétrer. Là, on va être obligé de brûler entièrement leur costume. Alors, actuellement, l'intérieur de la cathédrale est complètement impossible à tourner parce qu'il y a toujours du danger et surtout, il y a des échafaudages partout à l'intérieur.
Notre-Dame brûle est une superproduction filmée à hauteur d'hommes et de femmes, les pompiers étant les héros de l'histoire. Le réalisateur, heureux et serein, à la tête d'un projet de plus de 30 millions d'euros.
Et je le vis avec un plaisir intense. Je dois dire, je suis très heureux, c'est depuis coup de tête, j'ai pas tourné en France, moi. Et là, j'ai la joie de me trouver avec une équipe absolument remarquable, qui est du meilleur niveau international. Je crois que je n'ai jamais eu un tournage aussi fluide, malgré l'incroyable difficulté du film, la difficulté des effets spéciaux sur place, hein. On fait beaucoup évidemment de feux, de braises qui tombent, de fumée de toutes sortes. Tout ça marche remarquablement. En fin de 7e semaine, on n'a pas une minute de retard.
Alors dites-nous justement, Stéphane, en quoi consistait la scène du jour ?
Ou plutôt les scènes, car Haneau veut faire un film court autour d'1h30 qui démarre le matin du jour de l'incendie, donc le 15 avril 2019, et s'achève à l'aube du 16 quand le feu est maîtrisé.
L'arrivée du colonel, moi je l'imagine à un coin de rue là-bas. On peut peut-être aller voir un coin de rue qui n'est pas trop éclairé, Jean-Marie. Hein ? Allons-y.
Cette séquence-là montre la voiture du colonel des pompiers arrivant face à Notre-Dame, constatant l'ampleur du sinistre. On a construit des machines qui lancent des braises sur les acteurs, mais aussi sur l'équipe en train de tourner. Vous l'entendez, un puissant ventilateur envoie des vagues de fumée pendant que des kilos de charbon de bois s'abattent sur le parvis de la cathédrale. Jean-Jacques Haneau règle chaque détail, enchaîne les plans et jubile.
Ah, c'est plutôt mieux. Oui, non, franchement, c'est plutôt mieux parce que je n'imaginais pas que ça serait aussi beau, aussi vif et aussi émouvant. Et aussi, parfois, bizarrement burlesque. Parce qu'évidemment, c'est comme les enterrements, il y a toujours des scènes bizarres dans ces moments tragiques. Là, Dieu sait s'il y en a eu, il y a eu un empilage, j'ai envie de dire de suspense en vérité, mais aussi de moments complètement rocambolesques. Je crois que ça va donner beaucoup à la fois d'intensité et d'intérêt au film.
Et l'idée de ce film, c'est de montrer à l'écran combien cet incendie-là a été exceptionnel dans sa violence.
Complètement affolant, ils sont arrivés à un moment où il y avait une furie rageuse du feu qui était tellement chaud et puissant. D'ailleurs, j'ai reçu une lettre hier reconfirmant que la flamme était à 1200 degrés. Même des poutres lourdes vont être emportées par l'air ascendant et retomber, certains sur le parvis, mais c'est d'aller jusqu'à la gare d'Orsay. Hein. Et tous les pompiers me disent, la première chose qui nous a frappé, le mot frappé est juste, c'est le tambourinage sur nos casques. Tellement il y avait de ce qu'on appelle les brandons, vous savez, qui sont des braises du charbon de bois, qui dégringolaient sur leurs casques, et ils me racontent tous, ça croustillait sous nos pieds. Parce qu'il y avait des braises partout, les gargouilles sortaient des trombes de plomb fondu. Donc ça a été un incendie monstrueux.
Et on le comprend en écoutant Jean-Jacques Hano, vous nous le disiez Stéphane, ce sont les pompiers qui sont les véritables héros de ce film.
Oui, deux femmes et deux hommes au tout début de l'incendie avec un équipement dérisoire pour lutter contre les flammes, heureusement rejoints par des moyens beaucoup plus lourds. Ensuite, les pompiers de Paris sont incarnés par des acteurs pour la plupart inconnus, mais les vrais soldats du feu de la capitale sont aussi partie prenante du film.
Je remercie infiniment les gens de la brigade d'être aussi dynamiques avec nous. Même les généraux nous aident vraiment. Ils sont venus voir les décors, donner des conseils. Ce sont non seulement des conseillers, mais des amis maintenant. Et donc, si vous voulez, je me sens une certaine responsabilité d'abord de dire la vérité de ce qui s'est passé, de le dire avec émotion et respect. Mais bon, j'espère que le film pourra servir à améliorer le matériel dont les pompiers pouvaient disposer. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Je suis tellement heureux d'être en harmonie avec ces pompiers que je connaissais mal, finalement. Je respectais leur fonction, évidemment, comme toute la population. Mais là, je suis profondément admiratif de leur métier et de leur humilité. Et c'est incroyable ce qu'ils sont juste. J'utilise évidemment des acteurs qui jouent les pompiers, mais j'ai aussi de vrais pompiers. Ils sont magnifiques, ces gens-là. Les risques qu'ils prennent au quotidien, c'est complètement hallucinant. La difficulté, la lourdeur de leur matériel, le fait dans des situations que nous jugerions épouvantables, mais au quotidien, de voir leur modestie, et pour eux, c'est leur boulot, quoi. Voilà, c'est... Donc je suis dans un état de profonde admiration et de profonde harmonie avec ma grande victime, la cathédrale Notre-Dame.
Et puis, souvenez-vous, à la fin de l'hiver, Jean-Jacques Hano avait lancé un appel aux témoins anonymes de l'incendie. Il va insérer dans son film plusieurs minutes de vraies images enregistrés par les téléphones portables des passants ou des touristes, mais aussi les images des réactions du monde entier face à la catastrophe. Eh bien, l'appel a été entendu.
On a reçu dans les premiers jours 2000 vidéos. Ce qui est compliqué à refaire, c'est par exemple ces scènes d'embouteillage. J'en ai fait une, mais je ne peux pas en faire partout. Or, les véhicules ont été bloqués partout. Et donc, tourner dans Paris, même si j'ai de grandes facilités, c'est quand même difficile de tourner à Paris. Parce qu'on bloque des rues, parce que ça emmerde les gens, évidemment. Donc on ne peut pas multiplier les prises de vue. Ce qui compte beaucoup pour moi, c'est d'avoir, que lorsque les gens se sont mis à chanter des cantiques vers la fin de l'incendie, je vais en tourner certaines, mais les ponts étaient garnis de gens qui chantaient. Et puis j'ai aussi besoin, évidemment, de tout ce qui s'est passé à l'étranger, où le monde entier a regardé cet événement. Que ce soit en Chine, en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, en Islande. Je sais qu'il y a eu une messe à Yaoundé dans la cathédrale, je sais que sur le Niger, dans les pirogues, on chantait. Donc, si vous voulez, ces images-là, alors je peux les tourner, bien sûr, mais j'ai aussi besoin de rappeler de temps en temps, il y aura 5 ou 6% du film qui va être consacré à des véritables images d'époque. Je vais pas cacher le fait qu'au contraire, ce sont des images vraies autour duquel nous racontons ce que les gens ne savent pas, n'ont pas vu, n'ont pas même entendu. Et c'est ça qui rend le film très passionnant.
Notre-Dame brûle, le nouveau film de Jean-Jacques Hano est désormais terminé. Il est en plein montage cet été, il reste plusieurs mois. Ensuite, il y aura la post-production pour les effets spéciaux. Sorti sur nos écrans, on le rappelle, c'est pour le printemps 2022.
On a hâte de le voir. Hein,
absolument,
que de voir ce que ça donne. Appétit. Absolument, on veut le voir en vrai. Merci beaucoup Stéphane. Hey, bonjour Bernard Lehu.
Bonjour.
Dans votre bibliothèque de l'été, Bernard, un polar signé d'un certain Pierre Lemaitre, Le Serpent majuscule, un texte publié au printemps dernier, on avait parlé, mais écrit en 1985, voilà qui mérite quand même quelques explications.
Eh bien, je vais tout vous dire. À l'époque, Pierre Lemaitre est un auteur débutant, tenté par le roman policier. Le Serpent majuscule est sa première intrigue, mais la mort du père de Pierre Lemaitre, vécu très douloureusement, le fait renoncer à une carrière d'écrivain, dans laquelle il ne se lancera que 20 ans plus tard. Aujourd'hui, le lauréat du prix Goncourt 2013, avec Au revoir là-haut, donne sa chance à ce polar de jeunesse qui n'a rien d'un fond de tiroir. Pierre Lemaitre vous présente la surprenante héroïne du Serpent majuscule.
On a un personnage qui s'appelle Mathilde, qui est une femme assez âgée. Elle aurait l'âge d'être à la retraite. Elle est assez lourde, elle a un très gros derrière. Elle se meut assez lentement, mais c'est un tueur à gages. Et c'est un tueur à gages extrêmement expérimenté, et c'est vraiment, dans son métier, une experte. Bon, voilà, ça c'est la situation de départ, cette idée que, au fond, elle est absolument, comme elle est imprévisible comme tueur à gages, elle est tout à fait le genre de femme que, sur une scène de crime, on laisse passer en disant, écartez-vous ma petite dame, rentrez chez vous, c'est pas un spectacle pour vous, alors que en fait, elle tire extrêmement bien, et si possible, dans les endroits qui font le plus mal. Donc, ce personnage est assez drôle en soi, et le lecteur va suivre l'aventure de Mathilde à un moment de sa vie où les choses vont commencer à dérailler, et le livre commence véritablement lorsque Mathilde commence à dérailler, j'espère pour le plus grand bonheur du lecteur, qui va être surpris de ses attitudes, surpris de voir à quel point elle a du répondant, comme on dit, et c'est une femme d'une méchanceté, d'une cruauté, qui finissent par devenir très jubilatoire, en tout cas je l'espère.
D'où vient-elle ?
Alors à cette époque-là, j'avais travaillé, étant vraiment quasiment adolescent, dans un bureau où il y avait une femme comme ça. Elle était d'une très très grande méchanceté. C'était une vacharde finie. Elle mettait des pots de bananes à ses collègues. En fait, c'était une véritable peste. Et ça m'a donné vraiment un personnage. Je me suis dit, si je pousse un petit peu cette femme-là, elle pourrait tout à fait être un tueur à gages. Le personnage de Mathilde était né.
Mathilde, l'étonnante mamitieuse à gages du serpent en majuscule, que Pierre Lemaitre publie aux éditions Albin Michel, 36 ans donc après l'avoir écrit.
Merci beaucoup messieurs. Jérôme, bien sûr on vous retrouvera dès demain sur RTL. Rendez-vous, on le rappelle, à 6h30 pour RTL Matin.
Laurent Martic, les 100 ans de la radio sur RTL.
Nouvel épisode donc de notre saga Les 100 ans de la radio avec un chanteur animateur ce soir. Retour sur cette époque où RTL embaucha le temps d'un été un certain Johnny Hallyday.
C'est une idée un peu folle, née un jour de 1984 dans le bureau du patron des programmes d'RTL de l'époque. Proposer à l'idole des jeunes, Johnny Hallyday, de devenir animateur le temps d'un été.
Bienvenue à Sunday Rock aujourd'hui dimanche avec mon ami Sam Bernett.
Pour épauler le chanteur et sans doute aussi le convaincre, car les deux hommes sont amis, on demande à Sam Bernett, un des animateurs stars d'RTL, de prendre en charge l'organisation et la co-animation de cette émission, baptisée Sunday Rock.
Bonjour à tous, en public au Rock'n'Roll Circus, c'est la Boum à Jojo.
Johnny va se glisser dans ce rôle avec beaucoup de sérieux. Les émissions étaient en partie enregistrées dans un temple du rock à Paris sous l'Olympia, le Rock'n'Roll Circus 2, dont le propriétaire, ça tombait bien, n'était autre que Sam Bernett, le compagnon de route de Johnny donc sur cette émission. La régie publicitaire trouva un sponsor et les premiers enregistrements furent lancés sous la supervision du grand réalisateur de radio, Bernard Meneguzzi.
Sunday Rock, la séquence vidéo.
Oui, nous avons une belle vidéo. Et une vidéo extraite du film Footloose. Vous avez vu Footloose ?
Johnny se préparait très sérieusement, raconte ceux qui l'ont accompagné. Chaque mardi, il retrouvait son ami et complice Sam Bernett dans un restaurant parisien. Et devant un steak, américain évidemment, il prenait des notes, se renseignait sur l'actualité de celles et ceux qu'il allait recevoir. Car il ne se contentait pas de présenter des disques, il chantait en duo avec ses invités. Des duos uniques, comme avec Jacques Dutronc.
Dites donc tous les deux, vous vous êtes retrouvés très souvent sur la scène du Golf Drouot et jamais ailleurs.
On s'est retrouvés souvent, oui, mais tu sais qu'on n'a jamais chanté ensemble.
Est-ce qu'on peut espérer vous voir maintenant chanter une chanson tous les deux ? Est-ce qu'il y en a une que vous connaissez tous les deux ?
Oui, oui. Oui, et moi.
Eh ben allons-y.
Avec ma voiture et mon chien, sans canne écoutant qui la voit, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie.
Ou des jeunes talents de l'époque, Laurent Voulzy.
Les portes du pénitencier.
Ou encore Jean-Jacques Goldman. Avec le groupe Téléphone, ce sera... Et avec d'autres, des tentatives inédites, comme ici, avec Alain Bachung, l'un en français, l'autre en anglais. 14 émissions diffusées entre juillet et septembre 1984 demeurent aujourd'hui ces pépites, ces duos précieusement conservés.
Ouais, là c'est notre série slow, vous pouvez danser.
Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire.
Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont.
Les 100 ans de la radio, signé Laurent Marsic. Comme chaque jour, c'est à écouter, réécouter en podcast sur l'application RTL. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Le journal de 19h, ce sera avec Hortense Crépin. Tout de suite sur RTL.
RTL Soir.
RTL. Il est 19h.
RTL Soir, Amandine Bégaud.
Et le journal, c'est avec Hortense Crépin. Bonsoir Hortense.
Bonsoir Amandine, bonsoir à tous.
Elle a une ces images de désespoir, celle de Kaboul.
Une capitale afghane et son aéroport où règne le chaos le plus total après la prise du pouvoir par les talibans. Emmanuel Macron doit lui s'exprimer dans une heure. Autre prise de parole ce soir, celle du président américain Joe Biden. La stupéfaction en Haïti pour des milliers d'habitants après le passage d'un séisme ce week-end. Le dernier bilan fait pour le moment état de 1300 morts. Vous entendrez l'appel à l'aide d'un journaliste haïtien. Après les cinémas, les TGV et les restaurants, place au pass sanitaire dans une centaine de grands centres commerciaux. On ira voir comment ça s'est passé à Marseille. Enfin, couverture Polypro, protège-cahier et bâton de colle, c'est un vrai coup de pouce pour de nombreux parents. L'allocation de rentrée scolaire sera versée demain à 3 millions de familles.
RTL Soir.
Mais d'abord, dans cette actualité très anxiogène, vous allez entendre Amandine, une héroïne. Cette héroïne, c'est Lucia. Cette collégienne s'est jetée à l'eau hier pour sauver un petit garçon de 4 ans qui était en train de se noyer en Dordogne dans une rivière à Mussidan. Tout le monde est sain et sauf et je vous propose donc d'écouter le témoignage de la jeune fille de 13 ans. C'est un témoignage RTL exclusif recueilli par Philippe de Maria.
On a vu l'enfant descendre par les escaliers à côté du pont. Il était au bord de l'eau. On lui a dit « Non, saute pas !» Il nous a regardé. Il s'est jeté dans l'eau. Au début, il n'était pas paniqué. Et après, il commençait à se noyer. Ma mère, elle a appelé les pompiers. Moi, j'ai jeté mon téléphone et j'ai sauté dans l'eau. Le courant, il était très fort. L'enfant, il commençait à se faire emporter. Je suis allée chercher et je l'ai ramené. Et ma mère m'a dit « Passe-moi son bras ». Elle a pris. On a essayé de le rassurer. Après, les pompiers sont arrivés. Ils ont fait les premiers soins. Son père, il est arrivé. Ils étaient choqués un peu. Enfin, ils se sont dit aussi comment il a pu sortir. Et il ne faut pas les blâmer, les parents. Et ils n'ont pas fait exprès. Ils avaient mal fermé la porte à clé. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais je suis contente. Et je suis hyper fière. Parce que je sais ce que ça vaut une vie. Parce que l'an dernier, j'ai perdu mon père. Je sais ce que ça coûte, une vie.
Le très beau témoignage de Lucia, cette héroïne, témoignage exclusif RTL recueilli par Philippe de Maria.
13 ans, hein, seulement.
13 ans quand même, c'est incroyable. En plus, preuve de la maturité de cette jeune fille, elle va devenir pompier volontaire. Elle démarre un stage en septembre chez les pompiers de Mussidan et elle va aussi recevoir la médaille de la ville.
C'est bien mérité. L'actualité ce soir, Hortense, c'est aussi, bien sûr, le drapeau des talibans qui flotte à nouveau dans Kaboul.
Et un lieu désormais symbolise la seule porte de sortie de l'Afghanistan, c'est l'aéroport de la capitale où tous les vols civils et militaires sont suspendus et ces images chaotiques de milliers d'habitants qui tentent de fuir à bord des avions de rapatriement. Les Américains ont même dû tirer en l'air pour tenter de contrôler les foules. Mais avant même de pouvoir entrer dans l'aéroport, il faut déjà trouver le moyen de se rendre sur place, Brice Dugénie.
Absolument, il y a d'abord un problème sécuritaire désormais. Aucune certitude de pouvoir traverser Kaboul aux mains des talibans qui ont montré dans les villes précédemment prises leur violence et leur esprit de vengeance. Il faut donc assurer la sécurité parfois au prix de négociations avec les talibans qui assurent eux-mêmes une escorte jusqu'à l'aéroport. Et puis à cela s'ajoute un problème de transport logistique, comme l'explique Victoria Fontan. Elle est vice-présidente de l'université américaine de Kaboul et elle ne parvenait pas aujourd'hui à rejoindre l'aéroport à cause des embouteillages.
Les gens ont abandonné leur voiture en chemin pour l'aéroport, donc il y a en plus des tas de voitures qui bloquent les accès. Et donc c'est vraiment, on se croirait dans un film catastrophe avec un volcan en éruption. Enfin, on en est là, quoi. C'est vraiment sauf qui peut pour tout le monde. Et personne ne sait comment il va terminer à la fin, s'il sera mort ou vivant, quoi, malheureusement.
elle, pense pouvoir atteindre l'aéroport demain ou dans la soirée, mais doute que ses étudiants et surtout ses étudiantes réussissent et se retrouvent une fois de plus prisonniers d'un nouveau régime taliban.
Brice du génie du service étranger de RTL, le chef des forces américaines à Kaboul, a lui rencontré les talibans à Doha pour leur demander de ne pas attaquer l'aéroport. Les militaires américains qui ont tué aujourd'hui deux hommes sur place qui ont brandi des armes visiblement avec un air menaçant.
Et de son côté, le secrétaire général des Nations Unies appelle lui le monde à s'unir, je cite, pour combattre la menace terroriste en Afghanistan.
Demain, ce sont les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui vont tenir une réunion, mais aussi les ambassadeurs de l'OTAN. À 21h45, ce sera une autre prise de parole très attendue, celle du président américain Joe Biden. Mais avant cela, c'est Emmanuel Macron qui doit s'exprimer. Un conseil de défense s'est d'ailleurs tenu ce matin. Allocution télévisée à 20h du président, donc Marie Mollet, et qui se fera depuis le fort de Brégançon.
Oui, cela faisait des mois que le chef de l'État n'avait pas solennellement pris la parole sur un autre sujet que celui de la pandémie. Ce sera le cas ce soir dans une courte allocution pour d'abord détailler l'opération de rapatriement des Français qui se trouvent encore sur place, quelques dizaines d'après l'Élysée, mais aussi parler du sort des Afghans qui ont travaillé pour la France et les militaires français, ainsi que celui de journalistes afghans, d'artistes, de militants des droits de l'homme, précise l'entourage du chef de l'État sans rentrer dans le détail. En tout cas, allocution attendue par les oppositions en France. À droite, la prise de Kaboul par les talibans réveille la crainte d'une nouvelle vague migratoire, une déferlante même, surenchérit le RN Jordan Bardella. Quant à gauche, au contraire, les Verts demandent d'assouplir les procédures d'asile. C'est précisément cette ligne de crête qu'Emmanuel Macron tentera de trouver entre priorité humanitaire et sécuritaire. Combien d'Afghans la France pourrait-elle accueillir et qui? Et surtout, comment se coordonner avec les autres pays de l'Union européenne?
Marie Mollet du service politique de RTL. En bref, deux policiers entendus en garde à vue par l'IGPN, la police des polices. Une vidéo des faits a été largement reprise sur les réseaux sociaux. Ils ont blessé par balle un conducteur et sa passagère la nuit dernière en Seine-Saint-Denis à Stains. Ils tentaient de contrôler leur voiture qui a d'abord reculé pour leur échapper et après avoir essayé de la stopper, les policiers qui sont aussi blessés et qui ont été transportés à l'hôpital ont ouvert le feu.
On marque une petite pause et dans un instant sur RTL, le témoignage d'un journaliste haïtien et des habitants livrés eux-mêmes après le séisme de ce week-end.
RTL Soir. RTL Soir, Amandine Bégaud.
Et la suite du journal de 19h avec Hortense Crépin, 19h07. Et on part en Haïti, Hortense, après ce séisme et un très lourd bilan.
1300 morts et 5700 blessés, bilan provisoire et qui devrait s'alourdir dans les prochains jours avec la recherche des disparus. Et la sidération désormais pour des milliers d'habitants qui se retrouvent sans abri dans le sud-ouest du pays. D'autant que la tempête tropicale Grace est attendue là-bas. D'ici là, l'aide humanitaire et internationale s'organisent tant bien que mal, mais beaucoup ont le sentiment d'être livrés à eux-mêmes. Écoutez Henri Beauséjour, il est journaliste pour une radio haïtienne.
Honnêtement, il y a une peur bleue. Il y a des gens encore qui sont très en difficulté. Les hôpitaux sont à bout de souffle. Il n'y a pas grand moyen. Les professionnels médicaux ne peuvent pas trouver des médicaments. Ils ont besoin de tout là-bas, des matériels, de l'eau. Les routes sont un peu bloquées. Comme on dit assez souvent, le gouvernement n'a pas appris beaucoup de choses avec le tremblement de terre de 2010. Les moyens sont encore moins dans les villes de province. Il n'y a pas vraiment une mise en place pour ces gens qui ont perdu leur maison et tout. Il n'y a rien. Nous attendons beaucoup mieux. Nous espérons dans les heures qui viennent une prise de position sérieuse pour venir en aide à ces personnes.
Henri Beauséjour, journaliste haïtien, joint par Lucille Besse pour RTL.
Eux pensaient passer des vacances insolites à Belle-Île-en-Mer. Le séjour a tourné court pour des adolescents.
Sur les 173 jeunes accueillis dans une colonie de vacances, 69 ont été testés positifs au coronavirus, mais aussi 8 animateurs. Le centre est donc fermé et les malades doivent prendre un bateau pour être rapatriés. Dans le même temps, la situation est toujours très critique aux Antilles, avec ce taux d'incidence record chez les 20-29 ans en Guadeloupe. 4000 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants. Florence Parly, la ministre des Armées, annonce, elle, l'acheminement de plus de 100 tonnes d'oxygène médical en Martinique, du matériel qui devrait arriver à Fort-de-France jeudi.
Florence Parly, qui sera justement l'invitée d'RTL Matin demain, rendez-vous à 7h40. La ministre reviendra bien sûr aussi sur la situation en Afghanistan et le rapatriement des Français.
Et puis toujours concernant l'épidémie, comme les JO il y a 2 semaines, les Jeux paralympiques aussi vont se tenir à huis clos. Et cela en raison de l'explosion des cas de contamination dans le pays. Ils démarrent le 24 août. Par ailleurs, la délégation afghane Sagan, composé de deux athlètes, ne se rendra pas à Tokyo en raison de la situation dans le pays.
Et pour tenter de freiner justement la propagation des cas, le gouvernement français compte bien sur le pass sanitaire.
La semaine de rodage de sa mise en place dans les restaurants où les TGV est terminée. Et depuis ce matin, il y a un nouvel endroit où il faut présenter son QR code. Les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés et qui se trouvent dans des lieux où le virus circule activement. 126 établissements concernés dans le pays, notamment en région parisienne et dans le sud, comme dans la galerie des terrasses du port de Marseille. Là-bas, tout s'est globalement bien passé, mais un petit bug est venu perturber les choses en fin de journée, Hugo Hamelin.
Oui, le défilé des QR codes à l'entrée du magasin est fluide. Par contre, il y a des dizaines de personnes qui patientent dans la pharmacie qui est accolée aux terrasses du port, des non-vaccinés qui viennent se faire tester pour avoir le droit de faire du shopping. On est allé leur demander comment ça se passe.
Très mal.
Mal organisé, c'est une catastrophe. Mais déjà, les QR codes ne marchent pas. C'était en vrac, donc il a fallu faire la queue pour faire un papier, et après du coup refaire la queue pour faire le test, et maintenant refaire la queue pour avoir le résultat.
On nous impose plein de choses et il n'y a rien qui est mis en place pour pouvoir nous imposer ça.
Alors, il s'agit en fait d'un bug local, nous dit le ministère de la Santé. Trop de demandes de QR code aujourd'hui dans cette pharmacie. Du coup, c'est un formulaire papier tamponné par le pharmacien qui permet d'entrer dans cette galerie que dirige Marie Canton. Pas de perte d'affluence pour le moment, selon elle, à cause du pass sanitaire.
Okay. J'ai plus de 18 000 personnes qui sont passées là à cette heure-ci. Donc ça me va plutôt bien.
Un lundi habituel, c'est quoi?
C'est ça. On va finir à environ 20 000 personnes à ce soir, ce qui est ça. On a très peu de gens aujourd'hui récalcitrants qui veulent pas rentrer parce qu'on leur demande le pass sanitaire. On en a eu vraiment très peu.
L'instauration du pass sanitaire fait exploser le testing. On peut le voir aujourd'hui devant cette galerie commerciale, mais c'était aussi le cas hier soir devant le stade Vélodrome où des milliers de supporters de l'OM se sont fait tester dans des tentes ou des pharmacies à proximité.
Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille.
Et justement, ce QR code, il faudra peut-être le présenter demain pour ce que beaucoup redoutent chaque année, les courses de rentrée.
L'allocation de rentrée scolaire sera versée dès demain à 3 millions de familles, une aide de 370 à 404 euros selon l'âge des enfants et sous conditions de ressources. L'heure donc de faire sa liste et de commencer la chasse aux fournitures, comme pour ces familles que vous avez suivies dans un centre commercial près de Toulouse, Benjamin Pelsy.
T'as pris tes crayons de couleur, Nila ?
Dernière étape avant la rentrée, l'achat des fournitures scolaires. Aurore et sa fille Nila ont préféré s'y prendre tôt par peur de la rupture de stock.
Pour pouvoir trouver tout en une fois et pas revenir plusieurs fois. Avec le travail, c'est compliqué de revenir plusieurs fois. On a fait quoi, la moitié à peu près ?
Alors, il faut chercher dans les rayons, trouver le bon cahier, le bon crayon, et ceci pour chaque matière.
J'ai les fournitures générales, j'ai l'anglais, l'espagnol, le français, l'histoire géo, les maths, le latin, la musique, la SVT, la techno, la physique chimie, l'art plastique.
Trois pages de fournitures à trouver.
Et c'est pour la quatrième. C'est toujours un peu fatigant, je dirais.
Caroline découvre cette corvée pour la première fois.
Bah alors, j'étais pas ravie, j'avoue.
Sa fille rentre en CP.
Je me souviens, moi, petite, que c'était un bon moment d'avoir des fournitures toutes neuves. Je me suis dit qu'on pouvait transformer ça aussi en un bon moment entre filles.
Un bon moment qui coûte cher quand on a plusieurs enfants.
On nous demande, pour l'année scolaire, par exemple, 10 grosses colles, 8 feutres ardoises, c'est énorme. Au moins 100 euros, sans les cartables.
La rentrée, c'est vrai, coûte relativement cher. Mais on n'a pas le choix. Quand on fait les enfants, il faut les assumer.
L'année dernière, l'association Famille de France avait estimé à 197 euros le coût des fournitures scolaires pour un élève de 6e.
Le reportage de Benjamin Pelsy près de Toulouse, allocation de rentrée scolaire qui sera donc la bienvenue et qui sera versée demain. Le coût de la rentrée pour les étudiants, cette fois, est lui en hausse, plus 1,32% en 2021. Concrètement, un jeune débourse en moyenne 2392 euros pour son année universitaire. La Fédération des associations générales étudiantes demande d'ailleurs la mise en place de l'équivalent de l'ARS, mais pour les étudiants et sans critères de ressources.
Merci beaucoup Hortense Crépin. On vous retrouvera tout à l'heure, bien sûr, à 20h. Petit coup d'œil à la météo avec vous, Claire Delorme. Et c'est un joli dégradé de gris pour demain.
Exactement. Très gris, très maussade. Bref, la totale, à l'exception de la Méditerranée.
Ne gâchez pas non plus l'ambiance, quand même.
Non, mais c'est vrai, faut dire ce qui est. Bon, on aura quand même du beau temps en Méditerranée, mais avec du vent, ça va souffler fort, hein, 70 km/h toute la journée. Et puis donc, dans l'après-midi, les éclaircies vont un petit peu l'emporter vers la vallée du Rhône, partout ailleurs. Ça reste très mitigé, très variable, avec les nuages qui vont dominer toute la journée les régions au nord de la Seine, avec en en prime quelques petites averses hein, dans l'après-midi vers les Hauts-de-France, les Ardennes. Et dans le sud-ouest aussi, ça sera assez couvert en matinée. Par contre, au fil des heures, on va quand même pouvoir aussi bénéficier d'un petit peu de soleil à part le littoral aquitain et les Pyrénées. Pour les températures, eh ben, figurez-vous qu'on est même un tout petit peu en dessous des normales de saison.
Ça ne m'étonne pas beaucoup.
Ça a bien baissé par rapport au jour précédent. On est 6 à 8 degrés de perte par rapport à la veille. Ça se traduit dans l'après-midi par 19.
Par rapport à aujourd'hui ?
Oui, enfin par rapport à
hier.
Voilà, par rapport à hier. Là, en fait, aujourd'hui, vu qu'on est avec un petit vent de nord-ouest, ça a changé.
Je croyais qu'il allait faire encore plus froid. Excusez-moi,
pardon. Non. Ça y est, là, on est stabilisé. Là, on a perdu. Bon, bref, tout ça pour dire que demain matin, les minimales seront comprises entre 11 et 16 degrés en général, donc il fait pas bien chaud pour un mois d'août. Et donc, dans l'après-midi, les maximales seront comprises entre 21 et 25 degrés, avec quelques degrés de plus quand même du côté de la Méditerranée. Je rappelle que le Var et les Alpes-Maritimes sont encore en alerte canicule. Encore un petit peu de patience.
Merci beaucoup, Claire. Couvrez-vous demain, vous aurez donc compris message, en tout cas, si vous n'êtes pas dans l'extrême sud. Bonsoir, Éric Jean-Jean.
Comment allez-vous ?
Mais ça va bien, et vous ?
Je suis tellement content de vous avoir. J'ai l'impression de vous croisé ce matin quand je suis arrivé.
Mais oui,
c'est pas possible,
on s'est
croisé. Très tôt.
Si, si. Ben oui, mais ça se prépare. Hein,
mais
tout
je
ça.
Vois ça,
qu'est-ce
formidable.
Que vous croyez
je suis ravi de vous retrouver.
Mais
en tout cas,
aussi.
On est là toute la semaine ensemble.
Mmh. Non, parce que demain, je passe à RTL Midi. Mais bon, on se croisera quand même dans les couloirs. Enfin,
vous arrivez tellement tôt. Si vous arrivez à 9h du matin, elle est arrivée, il était avant
9h. 9h moins le quart, mais vous aussi, vous étiez là tôt.
Moi, j'avais antenne à 9h. J'étais presque en retard, moi.
On raconte un délire. Ça fait plaisir, en tout cas, de vous entendre.
Moi aussi, pareil. À demain.
À demain.
À demain. Donc, au revoir.
Au revoir, à demain. RTL Soir.